La santé, c'est l'affaire de tous.
Nous nous retrouvons sur Phare FM Montauban pour parler santé et c'est sans Edmundo aujourd'hui qui est retenu exceptionnellement au travail. Avec moi le docteur Mélanie Mugnot, bonjour.
Bonjour.
Votre parcours, vous avez étudié à l'université Toulouse 3 Paul Sabatier où vous êtes diplômée de neurologie. Actuellement neurologue au centre hospitalier de Montauban au service neurologie. Vous partagez votre emploi du temps avec le CHU de Toulouse dans le service neurologie vasculaire spécialisé dans l'AVC. Vous l'aurez compris, on va parler d'AVC. Selon le ministère de la Santé, cette pathologie touche 150 000 personnes en France. Plus de 110 000 sont hospitalisées et 30 000 malheureusement en décèdent. Cette pathologie représente la première cause nationale de handicap acquis de l'adulte. Près de 500 000 Français vivent avec des séquelles. Nous allons parler de l'AVC. Alors pour commencer, docteur, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous donner la définition d'un AVC ?
Oui, bien sûr. Donc, en fait, un accident vasculaire cérébral hein, ou AVC, ça correspond à l'arrêt brutal de la circulation sanguine par l'occlusion d'une artère cérébrale ou par la rupture de cette artère qui va en fait être responsable d'une mort hein, des cellules nerveuses et donc du dysfonctionnement de la région cérébrale en regard. Donc, vous l'avez dit, hein, l'AVC est une maladie fréquente puisqu'il est responsable chaque année de 150 000 nouveaux cas, ce qui correspond, pour avoir un ordre d'idée, à un AVC toutes les 4 minutes environ. C'est responsable effectivement de la première cause de handicap et de la deuxième cause de mortalité en France. Il y a environ 30% des patients qui présentent un AVC qui garderont des séquelles à terme, qu'elles soient physiques ou psychiques. Et contrairement à ce qu'on croit, l'AVC peut malheureusement survenir à tout âge, même si encore aujourd'hui, l'âge moyen de survenue est estimé à 74 ans. On s'est rendu compte sur ces dernières années que le nombre d'AVC chez les sujets jeunes augmente de manière assez importante et on considère à ce jour qu'il touche 25% des patients de moins de 65 ans et 10% des patients de moins de 45 ans.
Des chiffres affolants. Alors, deuxième question, quels sont les différents types d'AVC ?
Alors, l'AVC, c'est un terme général qui comprend en fait l'AVC ischémique, lorsque le vaisseau se bouche, et l'AVC hémorragique ou hémorragie cérébrale, lorsque le vaisseau se rompt. La catégorie des hémorragies cérébrales correspond à un autre type d'hémorragie qu'on appelle l'hémorragie méningée ou hémorragie sous-arachnoïdienne et qui est responsable, enfin qui est quand elle est causée dans la plupart des cas par une rupture d'anévrisme. Les AVC ischémiques qui sont beaucoup plus fréquents puisque c'est 80% des AVC en général, contrairement à l'hémorragie où c'est plutôt 20%. Et dans ces hémorragies, on considère qu'il y a environ 5% d'hémorragie méningée.
Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs la différence entre AIT et un AVC ?
Alors, un AIT, c'est en fait ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire. Et la seule différence entre les deux, c'est la durée de l'occlusion cérébrale. En gros, dans un AIT, on considère que le vaisseau se débouche tellement rapidement que ça n'entraîne pas de séquelles, c'est-à-dire que les symptômes disparaissent très vite. En général, ils disparaissent en moins de une heure et ça n'entraîne pas de marques sur l'IRM cérébral. En revanche, il faut le considérer comme une forme légère d'AVC, comme un signal d'alerte avec un taux de récidive assez important dans les jours qui suivent. Donc nous, on considère clairement que c'est une urgence médicale et qu'il faut le prendre en charge de la même manière qu'un AVC.
Selon vous, quelles sont les causes d'un AVC ?
Alors les causes, il y en a beaucoup. Si on réfléchit en termes de proportion, tout âge confondu, la première cause d'AVC, c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Donc l'athérosclérose, c'est quoi ? C'est le dépôt des plaques de graisse à l'intérieur des artères. Et si ces plaques de graisse grossissent et deviennent trop grosses, elles vont entraîner des difficultés au flux sanguin hein, qui va monter jusqu'au cerveau. Et ça peut entraîner des AVC. La deuxième cause, en termes de proportion, dans 25% des cas environ, c'est ce qu'on appelle les causes cardio-emboliques, donc c'est-à-dire les causes en lien avec des problèmes cardiaques. La plus fréquente correspond à des troubles du rythme cardiaque et cette maladie, enfin une de ces maladies qu'on connaît le plus, c'est ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire. Donc, la fibrillation auriculaire, c'est quoi ? C'est quand les différentes cavités cardiaques ne se contractent pas en même temps. Et donc, du coup, si elles ne se contractent pas en même temps, elles ne peuvent pas éjecter le sang à chaque fois. Et donc, si le sang il stagne, il peut se former des caillots. Et après, le caillot, il peut être envoyé dans la circulation générale. Et donc, ça peut boucher une artère du cerveau. Ça peut aussi boucher une artère de la jambe, par exemple. Nous, en tant que neurologues, on réfléchit pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que nous, on va plutôt réfléchir par rapport au patient. Par exemple, si on voit un patient jeune qui fait un AVC, nous, on sait qu'il va y avoir des causes qui sont beaucoup plus fréquentes chez les jeunes. Et donc, par exemple, on va rechercher en premier des malformations cardiaques. Et en second, plutôt des dissections artérielles, donc c'est-à-dire des déchirures des parois artérielles qui surviennent plus volontiers chez les gens jeunes et qu'on retrouve quasiment jamais chez les gens âgés. Donc, c'est assez important, ça, cette différence entre les âges finalement et entre le type de patient.
On parle souvent de patrimoine génétique dans certaines pathologies. Il existe une origine génétique pour ce type de maladie ou pas ?
Alors, ça existe, c'est assez rare. Donc, nous, ça peut nous arriver de suivre des familles où il y a plusieurs membres qui vont faire des AVC. Alors, en général, c'est des AVC qui arrivent à des âges plutôt jeunes. C'est des gens qui récidivent, qui font plusieurs AVC. Donc, il y a certains gènes qui sont connus. C'est vraiment une cause infime et c'est des gens qui sont suivis en général dans des structures assez spécialisées comme le CHU de Toulouse par exemple. Ça peut nous arriver nous à Montauban d'en avoir, mais c'est pas du tout la majorité des cas. Quand on parle d'hérédité, en revanche, c'est vrai que l'hérédité fait partie des facteurs de risque cardiovasculaires et nous, on recherche systématiquement chez les patients qui font des AVC, des antécédents familiaux d'AVC ou d'infarctus du myocarde chez les parents à l'âge de moins de 65 ans. On sait que ça peut être un facteur de risque de faire plus d'AVC.
Est-ce qu'il y a des facteurs de risque concernant l'AVC ?
Donc oui, il y a des facteurs de risque. Donc un facteur de risque, ça veut dire quoi ? C'est en fait une caractéristique qui fait qu'on est plus à risque de développer une maladie. Et donc il existe globalement deux facteurs de risque, ceux qu'on ne peut pas modifier, comme l'hérédité dont je viens de parler précédemment. Et surtout, le deuxième facteur de risque non modifiable, c'est l'âge. On sait que plus on vieillit et plus on fait d'AVC. Et à côté de ces facteurs de risque dont on ne peut rien faire, il y a d'autres facteurs de risque sur lesquels on peut agir, et ça, c'est important. Et donc, ces facteurs de risque, c'est globalement l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, le tabac, l'alcool et les toxiques en général, l'obésité et la sédentarité. La sédentarité, c'est les gens qui font pas beaucoup d'exercice physique. Je voulais juste attirer l'attention sur les toxiques parce que c'est au moins en partie à cause de ça, on pense que les AVC augmentent chez les sujets jeunes parce que forcément, c'est la catégorie de population qui consomme le plus de toxiques et il y en a beaucoup qui ont des impacts et qui peuvent entraîner des AVC. Par exemple, le premier, c'est le cannabis. Le cannabis, en plus, il peut entraîner les AVC par diverses causes. On pensait au départ que c'était parce que le cannabis est coupé au tabac. Alors, en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a plein d'études qui sont en train de s'y intéresser. Et on se rend compte que le cannabis, par la substance en elle-même, est à risque d'entraîner le développement de plaques de graisse. Et non pas à cause du tabac, hein, juste par rapport au cannabis. Ça favorise aussi les troubles du rythme cardiaque et ça peut également entraîner des spasmes au niveau des artères cérébrales qui peuvent favoriser les AVC. Et en termes de substances vasoconstrictrices, c'est ça qu'on appelle, hein, quand les substances entraînent des spasmes au niveau des artères, il n'y a malheureusement pas que le cannabis, il y a globalement toutes les drogues psychostimulantes comme la cocaïne, l'héroïne, la MDMA. Et donc, il va falloir essayer de travailler un peu dessus parce que peut-être que ça pourrait éviter les AVC chez les gens très jeunes.
Alors, on a vu l'aspect des toxines, hein, bien évidemment. Alors, une question d'un auditeur. Le téléphone ou écran peuvent-ils être des facteurs déclencheurs ?
C'est un peu dans l'air du temps, le téléphone, effectivement. Mais là, pour le moment, il n'y a aucun élément à ce jour qui permet de répondre à la question. Hein.
Le stress est un élément déclencheur aussi d'un AVC ou pas ?
Alors, le stress, c'est vrai que les patients nous posent souvent la question. Alors, c'est pas responsable à 100%, ça c'est sûr. Après, on pense que ça peut avoir un impact, mais c'est trop compliqué de le prouver. C'est trop difficile d'essayer de juger le risque potentiel de stress dans des essais cliniques. Donc, on pense que ça a un impact. Par quel mécanisme, pour le coup, c'est pas hyper clair.
Alors, il y a une autre question aussi. Est-ce qu'il y a une prédominance en fonction du sexe?
Alors, c'est pas très clair. J'aurais tendance à dire que non, parce que dans les études, il y en a une qui va dire que c'est peut-être un peu plus fréquent chez les femmes. L'étude d'après va dire que c'est plus fréquent chez les hommes. Donc, globalement, moi, je pense que c'est 50-50.
Nous parlions en tout début d'émission, c'est la première cause de handicap hein, chez les adultes. Alors, une question, est-ce que les enfants peuvent faire aussi des AVC ?
Eh bien, malheureusement, oui. Alors, c'est beaucoup moins fréquent. On estime qu'il y a environ 1000 cas par an d'AVC en France chez les enfants. Pour le coup, les causes sont complètement différentes. C'est en général plutôt en lien avec des malformations cardiaques ou des maladies des artères qui sont souvent post-infectieuses.
Une question qui semble être indispensable dans cette émission, comment reconnaître un AVC ?
Alors, moi, je pense que l'information importante, c'est que tout déficit neurologique brutal est à considérer comme un AVC jusqu'à preuve du contraire. Donc, à quoi ça peut correspondre ? Ça peut correspondre à la paralysie d'un membre, à l'endormissement ou l'engourdissement d'un membre, un trouble visuel qui peut être la perte de vue d'un œil ou la diminution du champ visuel, souvent d'un côté, un trouble de la parole qui peut se présenter par une difficulté à s'exprimer, à comprendre les autres ou à articuler. Et ça peut également être un trouble de l'équilibre ou un vertige très intense et continu.
Quels sont les gestes qu'on peut faire quand on rencontre une personne qui fait un AVC ?
Alors, ce qui est vraiment important déjà de dire, c'est que il faut savoir que l'entourage est primordial parce que parfois, le patient peut ne pas avoir conscience de ses symptômes. Et si c'est le cas, c'est vraiment l'entourage qui va permettre de donner l'alerte. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut immédiatement contacter le SAMU via le 15. Faut savoir qu'il existe une prise en charge très standardisée hein, des accidents vasculaires cérébraux ou les accidents ischémiques transitoires pour faire au plus vite et ne pas perdre de temps. Donc, il faut surtout pas attendre d'avoir rendez-vous chez son médecin généraliste. Il faut pas se rendre tout seul aux urgences, ce qui risquerait de ralentir la prise en charge. Il faut vraiment contacter le SAMU. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comment ça se passe ? Le SAMU, s'il pense effectivement qu'il y a une suspicion d'AVC, il va orienter le patient vers la structure la plus adaptée. Il va prévenir le neurologue qui est de garde, qui sera immédiatement au courant qu'il y a un AVC ou une suspicion d'AVC qui va arriver, il saura où le patient va se rendre et quand le patient va arriver, il va être pris en charge immédiatement dès son arrivée. C'est important de ne pas perdre de temps parce qu'on estime quand même qu'on perd environ 2 millions de neurones chaque minute où le cerveau est privé d'oxygène. Et donc, si on veut éviter qu'il y ait trop de dommages irréversibles, il faut essayer de déboucher l'artère le plus vite possible en fait. Donc, actuellement, on dispose que de quelques heures pour essayer d'enlever le caillot. Et passer ce délai, on considère en fait que ça n'entraînera aucune amélioration ou au contraire qu'on risque d'aggraver les choses. Donc, aujourd'hui, on a deux traitements disponibles qu'on peut faire dans les premières heures. Le premier, c'est un traitement par médicament hein, qui se fait en perfusion, donc par les veines, pendant une heure. Mais ce traitement, on peut l'utiliser que dans les 4h30 qui suivent le début des symptômes. Et il y a un deuxième traitement qu'on peut faire, qui n'est pas un médicament cette fois-ci, qui se fait par un radiologue interventionnel, où en fait le radiologue essaie d'aller chercher directement le caillot par des cathéters et essaie de le retirer. Alors c'est pas une chirurgie, on va pas ouvrir le cerveau pour aller le chercher, on va passer directement par les artères, soit au niveau de la jambe, soit au niveau du bras, et le radiologue va remonter avec des petits cathéters pour essayer d'aller attraper le caillot et l'aspirer. Et cette deuxième technique, qu'on appelle la thrombectomie, elle peut se faire que dans les 6 premières heures. Alors, comment on fait quand on ne sait pas à quelle heure ça a commencé ? Ça arrive régulièrement, hein. C'est ce qu'on appelle, nous, les AVC du réveil. C'est les gens qui se réveillent le matin avec des symptômes neurologiques et on ne sait pas du tout à quelle heure c'est arrivé dans la nuit. Donc, c'est à ce moment-là où les imageries cérébrales sont très importantes et notamment l'IRM, puisqu'elle nous permet de dater un petit peu le début des symptômes, du moins de nous dire si c'est possible de faire ce traitement par thrombolyse ou thrombectomie. Donc, il y a bien sûr des indications hein, claires qu'on ne va pas détailler ici. Et c'est aussi pour ça que c'est important de ne pas aller de soi-même dans n'importe quelle structure, parce que s'il n'y a pas d'IRM sur place, on va être embêté pour répondre à la question.
Il existe d'autres traitements à part cela ?
Oui, alors pour le coup, lorsqu'on a dépassé le délai des premières heures, il y a d'autres types de traitements qui n'ont pas le même but. Hein. Le but, c'est pas de détruire le caillot, le but, c'est d'éviter que ça recommence. Donc, le traitement, forcément, il va dépendre de la cause, puisque le but, c'est de mettre le traitement le plus spécifique et le plus efficace possible. Donc, en termes de médicaments, l'un des médicaments le plus largement prescrit, c'est l'aspirine, qu'on appelle aussi le cardégique. Parfois, ça peut nous arriver dans certaines causes, surtout quand c'est des pathologies cardiaques, de mettre un médicament un peu plus fort que le cardiaque, qu'on appelle un anticoagulant, communément dit comme les fluidifiants du sang. Et ensuite, on va mettre d'autres types de traitements qui visent plutôt à diminuer les facteurs de risque, hein, notamment vasculaires. Donc, si on est diabétique, forcément, on va mettre un traitement antidiabétique. Si on a de l'hypertension, un traitement antihypertenseur. Si on a du cholestérol, on essaye de le faire diminuer avec ce qu'on appelle les statines. Et au-delà des médicaments, ça peut arriver d'avoir à proposer des prises en charge chirurgicales. Les deux grandes causes, globalement, c'est quand il y a des rétrécissements très importants des artères et notamment des carotides. Ça peut nous arriver d'avoir à faire appel aux chirurgiens vasculaires pour faire ce qu'on appelle une endartériectomie. Qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est le fait d'ouvrir la carotide pour essayer justement de nettoyer toute la plaque de graisse qui est à l'intérieur. Et parfois, quand cette chirurgie n'est pas possible, parce que c'est trop risqué par exemple, ça peut arriver de mettre des stents à la place, comme on peut faire au niveau du cœur quand on fait un infarctus. Et dans des cas très rares également, ça peut arriver de proposer des chirurgies cardiaques pour mettre en place des prothèses dans le cadre de malformations par exemple.
Une autre question, est-ce qu'on peut avoir plusieurs AVC ? Est-ce qu'il peut y avoir une récidive ?
Alors malheureusement, oui, il existe un risque de récidive et si on a déjà fait un AVC, on a plus de risque d'en refaire que quelqu'un qui n'en a jamais fait. Et ce risque, il est souvent très important dans les premières heures et il diminue au fur et à mesure du temps. Après, ça dépendra bien évidemment de la cause. Il y a des causes qui vont entraîner plus de récidive que d'autres. Mais c'est pour ça que c'est important en fait de consulter le plus rapidement possible parce qu'au-delà du fait, comme on l'a dit précédemment, qu'on peut faire certains traitements que dans les premières heures. En fait, le fait d'être hospitalisé permet d'être surveillé indirectement et du coup de pouvoir, nous, intervenir plus rapidement si jamais il devait y avoir une autre récidive. En plus, quand on est hospitalisé, nous, ça nous permet de réaliser les premiers examens complémentaires pour rechercher la cause de l'AVC et donc du coup essayer d'adapter le traitement et de mettre le traitement le plus efficace, le plus rapidement possible.
Alors, j'imagine qu'il doit y avoir un suivi des personnes qui ont subi un AVC. Est-ce qu'il y a un bilan et à quoi correspond ce bilan ?
Oui, il y a un bilan qu'on doit faire le plus rapidement possible. Et donc, en général, il doit être débuté dès l'hospitalisation quand on vient de faire l'AVC. Donc, bien sûr, il faut faire une imagerie cérébrale au moment où on fait l'AVC. Donc, la meilleure imagerie, c'est l'IRM cérébrale parce qu'elle est quand même plus précise pour voir le cerveau en lui-même. S'il n'y en a pas, on peut très bien se débrouiller avec un scanner cérébral. Il faut aussi, bien sûr, une imagerie des artères, donc soit par scanner, soit par IRM, soit par échographie au niveau du cou. Il y a après une prise de sang, on va rechercher plusieurs paramètres, un électrocardiogramme, pour voir si effectivement il y a des troubles du rythme cardiaque. Parfois, si on suspecte vraiment une cause cardiaque, eh bien, il faut faire d'autres examens plus poussés. Hein. Ça nous arrive régulièrement de demander à nos collègues cardiologues des échographies cardiaques, des enregistrements du rythme cardiaque sur 24 heures, sur 72 heures, des enregistrements de la tension. Et après, on va adapter forcément en fonction des premiers résultats des examens.
Alors, comment peut-on vivre après l'AVC ? On peut vivre normalement ?
Alors le but, forcément, oui, c'est d'essayer de reprendre une vie normale. C'est ce que voudraient tous les patients. Donc, vie normale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà pouvoir rentrer à la maison, pouvoir refaire les tâches de la vie quotidienne, pouvoir reprendre le travail si on était en âge de travailler. Après, c'est sûr qu'il va y avoir des changements. Déjà, il va y avoir un suivi médical assez rapproché au départ. Nous, on revoit systématiquement les patients en général à 3 mois pour refaire un point sur la récupération, sur les examens qui ont été faits entre-temps, sur les médicaments, sur les potentiels effets indésirables. Après, il est possible que le suivi ne se poursuive pas davantage. Je parle par le spécialiste et par le neurologue. Il y aura bien évidemment le suivi avec le médecin généraliste. Mais si la cause a été trouvée très rapidement, si le traitement est adapté, si le patient a bien récupéré, c'est vrai qu'il est possible de ne pas se revoir par la suite. Après, dans les chambres, bien évidemment, il y aura un traitement qui n'était peut-être pas là au départ ou qui aura changé entre-temps. et on en profite toujours pour refaire un point sur l'hygiène de vie qui est primordiale. C'est très important de faire de l'exercice physique de manière régulière, plusieurs fois par semaine. C'est aussi très important d'adapter l'alimentation. Donc, on préconise en France systématiquement ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Donc, c'est globalement ce que nous, on fait déjà dans le sud-ouest, c'est-à-dire essayer de manger le plus de fruits et légumes possible, de ne pas manger trop de viande rouge, de manger plutôt des viandes blanches, donc de la volaille, des œufs, du poisson, d'essayer d'éviter toutes les matières grasses. Il faut plutôt cuisiner aux huiles végétales, on ne cuisine pas avec du beurre, il faut éviter la charcuterie, les sucreries, et bien évidemment, arrêter de fumer si jamais on fume et essayer de diminuer les consommations d'alcool.
Alors, c'est la dernière question, on l'a évoqué en début d'émission. L'AVC peut-il entraîner des séquelles ?
Alors oui, bien sûr. La sévérité d'un AVC, c'est très variable là, d'une personne à l'autre. Il y a certains patients qui peuvent récupérer intégralement et parfois très rapidement hein, dès l'hospitalisation, et d'autres qui peuvent malheureusement décéder en quelques heures ou quelques jours hein, à l'hôpital ou après être rentrés chez eux. Globalement, on estime qu'un an après l'accident, il y a environ 20% des patients qui sont décédés. Et parmi les survivants, on dit qu'il y a environ 2/3 qui vont redevenir complètement indépendants et 3/4 qui pourront reprendre une activité professionnelle. Parmi les autres, les séquelles plus fréquentes et plus invalidantes qu'on retrouve en général, c'est les paralysies d'un membre ou d'un hémicorps et les troubles de la parole. Donc, sur le plan de la motricité, dans la majorité des cas, le patient récupère une marche qui est plus ou moins bonne, avec ou sans aide technique. Ce qui est plus difficile, c'est le contrôle du bras ou de la main qui reste souvent altéré. Sur le plan du langage, on considère qu'il y a environ 1/3 des patients qui vont garder les séquelles trop importantes pour pouvoir dialoguer avec quelqu'un d'autre, 1/3 qui va récupérer suffisamment pour communiquer, 1/3 qui récupérera intégralement. Sur le plan de la mémoire, il y a aussi des séquelles. Il faut savoir que l'AVC, ça correspond quand même à la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer. Donc souvent, les gens vont avoir des difficultés plus tard. Et au-delà des choses qu'on voit facilement, il faut toujours penser à ce qu'on appelle le handicap invisible, puisque si on ne le recherche pas, le patient va au départ pas le rapporter, mais c'est pourtant assez fréquent. Et beaucoup de patients vont dire qu'ils se trouvent extrêmement fatigués, qu'ils ont des troubles de la compréhension, qu'ils sont devenus anxieux. Et en plus, ce type de symptômes, il n'y a pas vraiment de règles. Ça peut récupérer rapidement, comme ça peut mettre un an parfois.
Très bien, merci pour toutes ces informations. Alors, nous avons fini hein, la liste des questions. Alors, moi, je vous laisserai conclure cette émission. Est-ce que vous avez un message à faire passer, un conseil ou une conclusion à apporter à toutes celles et ceux qui nous écoutent ?
Oui, alors l'AVC, c'est une pathologie qui est quand même très fréquente. Et je pense que le message qu'il faut faire passer, c'est qu'il faut être très réactif, il faut aller très vite. Donc, c'est vraiment très important de connaître les signes qui potentiellement peuvent orienter vers un AVC. Et il faut immédiatement appeler le SAMU. Il faut surtout pas se rendre par soi-même aux urgences. Il faut passer par les structures, les filières qui sont vraiment très standardisées et qui marchent assez bien pour faire au plus vite.
Merci infiniment, docteur Mugnot, d'être passé sur Phare FM Montauban pour nous parler de l'AVC. C'était très intéressant. Ça m'a rassuré, moi, personnellement. Voilà.
Merci de m'avoir invité.
C'est normal. Merci beaucoup. Si vous désirez réécouter ou partager cette émission, elle est disponible en podcast sur notre site www.pharefm.com. Rubrique La Santé, c'est l'affaire de tous.